Alors, les organisateurs, dans leur grande sagesse, ont mis l'économiste en position simplement de commentateur, et non pas de... Je ne sais pas si c'est de surplomb ou juste... Juste quelques réflexions du point de vue de l'économie, mais très, très rapide, en fait, parce que je ne vais pas vous refaire un exposé. Je dirais peut-être paradoxalement, parce qu'actuellement et depuis quelques années, il n'y a plus des confrontations entre économistes et juristes, mais je dirais que finalement... Dans ce qui a été dit, l'économiste est très proche du juriste, en fait, dans ce qu'a dit Antoine Yonkan. C'est-à-dire que, finalement, l'économiste a peu de choses à dire du travail lui-même. Antoine Yonkan disait « le droit parle très peu du travail ». Je pense que l'économie aussi parle très peu du travail. Et elle parle effectivement aussi beaucoup plus de l'emploi que du travail. Ou plutôt, le paradoxe de l'économie, c'est qu'à la fois, le travail est central, puisqu'il est la source de la richesse, etc. On l'a dit, le facteur de production. Et à la fois, il est complètement absent de l'analyse en tant qu'analyse de l'activité du travail. Ça, c'est le grand paradoxe de l'économie. Cette centralité du travail, Adam Smith a été, je crois, plusieurs fois cité. Si vous ouvrez de l'origine de la richesse des nations, le grand livre d'Adam Smith, qui est considéré comme le livre fondateur de l'économie, le premier chapitre, c'est, il parle du travail, il parle de l'organisation du travail, avec la fameuse manufacture d'épingles, et donc le travail est vraiment central. Mais ensuite, bon, on ne parle plus beaucoup du travail, on va parler du salaire, etc., on va parler de la marchandise, de la prestation de service qui s'échange sur le marché, mais on parlera très peu du travail, finalement. C'est un chapitre qui ouvre et qui clôt en même temps, qui reclôt cette boîte noire qui va rester pendant très très longtemps en économie, la boîte noire de l'entreprise et de ce qui se passe vraiment dans la relation de travail. Et c'est que récemment que l'économie s'est réintéressée au travail, et c'est au cours de 25-30 ans, disons, que à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue empirique, l'économie a réouvert la boîte noire de l'entreprise et a interrogé le travail un peu plus comme le fait le sociologue ou comme le fait le gestionnaire, en fait. Mais encore une fois, c'est très récent. Et l'économie s'est beaucoup intéressée à l'emploi, évidemment. Alors, l'emploi statut, il ne s'est pas tant intéressé à la dimension statutaire, mais que finalement, l'emploi, c'est simplement la traduction institutionnelle de cette valorisation marchande du travail. Et il abordait évidemment en termes très quantitatifs. Et donc, effectivement, si la question de l'emploi a éclipsé aussi longtemps celle du travail, pas seulement en économie, mais je dirais dans le débat social, comme l'a rappelé Patrick Fridançon, c'est... aussi parce que le manque d'emploi était central et Dominique a dit comment ça avait pu réagir, rétroagir sur les valeurs qu'on peut avoir du travail. Alors, à partir de ça, juste quelques pistes, en fait, quelques questions et quelques pour rebondir sur ce qui a été dit et puis pour ouvrir la discussion. En reprenant justement le fil de la façon dont les économistes ont questionné le travail depuis 25 ans, une des questions qu'ont posées les économistes, c'est en repartant du salaire, évidemment, puisque l'économie a beaucoup abordé le problème du travail à partir de la rémunération du travail, du prix du travail sur le marché. Et en réouvrant la boîte noire de l'entreprise, elle a reposé la question de qu'est-ce que le salaire, en fait. Le salaire n'étant plus considéré comme un prix d'un échange, résultant d'un échange marchand, mais finalement, le salaire comme motivation, le salaire comme valorisation, mais en un sens beaucoup plus large que simplement valorisation marchande, valorisation du travail. C'est-à-dire qu'en ouvrant la boîte noire de l'entreprise, on a aussi ouvert la boîte noire de qu'est-ce que le salaire et qu'est-ce que la valorisation, qu'est-ce que la valorisation du travail, en posant la question de l'incitation, de la motivation, et en retrouvant aussi des choses qui sont peut-être évidentes, qui ont toujours été pour les psychologues et les sociologues, mais le problème des valeurs intrinsèques et des valeurs extrinsèques ou instrumentales du travail qu'a évoqué Dominique Méda. Et aujourd'hui, les économistes reconnaissent que à trop insister sur la valorisation extrinsèque du travail, ce qu'on appelle la valorisation instrumentale, à trop vouloir inciter les individus par des incitations financières, on évince des motivations intrinsèques du travail, que ça peut avoir des effets assez négatifs sur la productivité des individus. Donc un questionnement. Alors, évidemment, cette réflexion des économistes reste pauvre, mais c'est juste pour reconnecter avec ce que disait Antoine Yonkan, c'est ce qui se passe actuellement sur l'évaluation du travail à l'intérieur des entreprises, sur finalement reposer les questions fondamentales de qu'est-ce que la rémunération, Hein, quelle est la nature du salaire? Je crois que ces questions sont assez centrales. Elles interpellent aussi bien l'économiste que l'historien, que le sociologue ou que le juriste. C'est un fil peut-être qui peut être suivi dans la discussion qui va suivre, hein, l'évaluation finalement. Alors, deuxième chose aussi auxquelles les économistes commencent à s'intéresser et qui va aussi rebondir sur des choses qui ont été dites, c'est sûr, finalement, s'étant beaucoup intéressé à l'emploi au sens d'un employment, hein, au sens des anglo-saxons, hein, c'est l'emploi de la main-d'œuvre finalement, hein, la mobilisation de la main-d'œuvre pour créer des richesses, il s'intéresse de plus en plus à l'emploi au sens de job, hein, finalement, et qui peut rejoindre par certains aspects l'emploi statut des juristes. Et d'un questionnement en termes quantitatifs, ils en viennent à un questionnement plus qualitatif, hein, et quelque chose qui est très, enfin, qui devient à la mode dans la réflexion des économistes, c'est la question de la job quality, hein, de la qualité de l'emploi. Et derrière la qualité de l'emploi, il y a aussi une des dimensions de la qualité de l'emploi, c'est la qualité du travail. Et là, on retrouve des choses, évidemment, qu'a beaucoup évoqué Dominique, hein, la qualité du travail. Et ce qui ressort, et là, c'est tout à fait convergent avec ce qu'a dit Dominique, et Dominique nous a montré des résultats d'études, mais ce qui est très frappant dans toutes les études dont on dispose au niveau comparatif international, c'est qu'il y a vraiment une crise de la qualité de l'emploi en France et une crise de la qualité du travail. Avec des paradoxes quand même, hein, avec des paradoxes qui interpellent le sociologue, l'économiste, l'historien et encore une fois le juriste. C'est que on a toujours une vision en France très négative des pays libéraux, notamment le Royaume-Uni, les pays du libéralisme, justement, où le statut de l'emploi est très, très peu protecteur. Or, ce qui ressort de toutes ces enquêtes, le paradoxe, c'est que la qualité de l'emploi et du travail apparaît toujours comme très supérieure dans des pays comme le Royaume-Uni qu'en France, hein, à partir de tous les indicateurs qu'on a, toutes les enquêtes qu'on a, etc. Donc il y a quelque chose qui se passe en France, hein, et donc Dominique a commencé à évoquer ça. Ça serait intéressant aussi de pouvoir retracer l'origine historique de ce grand malaise du travail, mais je crois qu'on peut parler d'un grand malaise du travail, dont un des symptômes est la façon dont les individus valorisent ce travail. Peut-être le survalorisent trop, mais c'est peut-être aussi, hein, ce que Dominique a laissé entendre, même si c'est trop réducteur peut-être comme lecture, mais que, hein, c'est ce grand malaise du travail en France aussi qui fait peut-être, qui est une cause de cette grande valorisation du travail en France, et que les causalités sont au moins dans les deux sens. Ma question, ça serait pourquoi ? Pourquoi cette crise du travail en France ? Pourquoi ce malaise plus particulièrement français ? Je crois qu'il nous interpelle tous. Et en même temps, hein, c'est la France, hein, là où je parlais d'un point de vue d'économiste, si on fait des corrélations entre variables, ce grand malaise du travail en France s'accompagne d'un taux record de productivité du travail en France. Hein, la productivité horaire du travail en France est l'une des plus élevées au monde, et selon certaines études, elle serait la plus élevée au monde. Mais c'est-à-dire qu'en France, on a une intensité du travail très très forte. Et on a un mode de répartition du travail et du non-travail très particulière. Hein, c'est-à-dire on travaille très peu en durée, telle qu'elle est mesurée par des indicateurs habituels, mais on travaille très intensément. Hein, on travaille que 35 heures par semaine, mais chaque heure travaillée est très intense, très productive. Et est-ce qu'il n'y a pas là aussi, dans cette mauvaise répartition du travail et du hors-travail, hein, une des sources du malaise français ? Je vais maintenant passer la parole à la salle, peut-être.
Oui, bonjour, Philippe Ponge, Europe Écologie Les Verts. Je me présente parce qu'effectivement, en tant que militant, le travail et cette valeur de travail en tant que militant non rémunéré est intéressante. Moi, je voulais d'abord juste revenir sur les causes qui font qu'effectivement, on peut être plus ou moins motivé dans le travail qu'ont évoqué Dominique Méda. Je voudrais ajouter en fait le contexte international, le contexte national, le poids historique que notre société porte, et la place d'un individu dans cette société pleinement conscient du poids de cette histoire, qui a envie de travailler ou pas pour une société. Est-ce qu'il a envie, on a une certaine catégorie de la population peut-être un peu privilégiée, dans laquelle je me mettrai, qui ira au travail parce qu'elle a envie, et qui sinon fera, comme certaines populations, aller au travail que quand il aura besoin. Et ces périodes peuvent être beaucoup plus courtes, bien sûr, quand on a un certain incitanat qui le permet et qui est difficilement contrôlable, d'ailleurs, parce que ces gens-là sont tout à fait capables de biaiser le système. Maintenant, je parlerai un peu de la notion de travail pour un individu dans la société. Effectivement, elle est devenue une reconnaissance évidente, comme Patrick Fridançon l'a dit. Moi, je trouve ça un petit peu, effectivement, spécial, pour pas dire spécieux. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire que c'est effectivement, en tant que militant bénévole, j'ai presque besoin de m'excuser finalement d'être trop présent ou de pas laisser la place à ceux qui eux travaillent, alors qui eux c'est formidable parce que eux travaillent, ils ont un temps, et donc voilà, on a une certaine difficulté dans la société, pratiquement une certaine reconnaissance difficile par rapport au fait de pas travailler. Bon, moi je travaille d'un autre côté, donc mais de façon beaucoup plus limitée, mais ça permet de dire aux gens: oui, je travaille, j'ai un travail. Alors, je me plais beaucoup dans ce travail, mais rien que le fait de pouvoir le dire me donne envie, voilà, de garder absolument ce travail. Et voilà, c'est bizarre. Dernière petite chose, peut-être, pour effectivement pousser les gens à travailler, je pense que la formation tout au long de la vie, c'est super important. Les gens ne savent même pas qu'ils ont droit à un CIF. Des gens qui travaillent depuis un certain temps. Donc oui, la formation et encore la formation, le choix. Et comment se fait-il ici également que des gens qui travaillent en SCOP sont contents d'aller travailler, au-delà du fait qu'ils partagent les bénéfices? Je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a effectivement la notion de responsabilité, la notion de participer à une aventure collective. Et là, on a effectivement certainement des pistes pour changer l'organisation du travail aujourd'hui.
Merci, oui. Effectivement, quand on parle de travail, il faut toujours préciser de quoi on parle. Et c'est intéressant d'avoir eu finalement trois visions, historiques, juridiques, sociologiques, plus une quatrième qui s'est immiscée, l'économiste. Et moi, je pense qu'il en manque une. C'est la vision anthropologique du travail. Le travail comme activité humaine. Et ce serait peut-être celle-là qui permettrait de recoudre ensemble les autres, quoi. Voilà, mais c'est un avis peut-être personnel, mais il me semble que c'est quand même cette vision anthropologique qui commence à réapparaître vraiment. Alors, moi j'ai bien aimé les laboureurs, là, parce que finalement, on peut peut-être montrer que cette vision, elle a toujours été présente, mais plus ou moins refoulée, quoi. Or, aujourd'hui, elle est encore refoulée, mais en train d'émerger, je pense, quoi. Et alors, je suis syndicaliste. Ce qui me gêne un peu, c'est que le mouvement syndical a un petit problème avec le travail. Il n'a pas de problème avec l'emploi. Enfin, il se bat comme il faut, je pense, même si les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances et des luttes. Mais avec l'emploi, il n'y a pas de problème. Par contre, avec le travail, avec les visions anthropologiques du travail, il y a un problème, et c'est une énigme pour moi, syndicaliste.
Oui, j'aurais dire que j'ai particulièrement apprécié l'intervention de M. Patrick Fridançon. Là, on vient d'évoquer le syndicalisme. J'aimerais évoquer la charte d'Amiens, 1905, qui réclamait l'abolition du salariat. Donc ce serait intéressant peut-être de voir l'évolution, effectivement, la place de l'emploi, qui, avec effectivement tous les avantages et la sécurité qu'elle peut apporter, même si elle est très remise en question, comme l'a bien analysé professeur Lioncamp. Donc c'est cette question-là que j'aimerais qu'on puisse développer. Pourquoi il y a eu historiquement cette sacralisation du salariat et du contrat de travail, même par les travailleurs eux-mêmes, par les syndicalistes, parce qu'effectivement, j'étais syndicaliste, mais j'ai très rarement entendu l'évocation de la charte d'Amiens, qui réclamait solennellement l'abolition du salariat.
Bonjour, on a parlé du travail, puis de l'emploi, puis de la qualité du travail. Je voulais savoir ce que vous pensiez des évolutions récentes de l'entrepreneuriat comme alternative au travail classique salarié, donc, qui apparemment suscite un certain désenchantement. Voilà, la réappropriation du travail par les individus.
Pour faire le lien avec l'interrogation fondamentale anthropologique, je pense que si on part des catégories à travers lesquelles on pense ce que l'on fait ou ce que l'on est, on peut comprendre qu'il y a une difficulté de parler du travail. Pourquoi ? Parce que soit on prend les catégories des personnes qui travaillent, c'est ce qu'a fait Sewell, par exemple, dans son histoire, au fond, des grammaires du travail. Il travaillait sur les chapeliers et il essayait de regarder comment les chapeliers parlaient de ce qu'ils faisaient et se représentaient, concevaient plutôt ce qu'ils faisaient. Et puis, il y a une autre strate qui est comment les savants de l'époque parlent de ça. C'est pour ça que quand on fait de l'histoire, je ne sais pas exactement quelle est la strate à laquelle on s'intéresse. Et puis, il y a la troisième strate, c'est comment les savants d'aujourd'hui parlent des savants d'hier et des profanes d'hier. Évidemment, on ne dit pas tout à fait la même chose et ce n'est peut-être pas forcément les mêmes catégories qu'on mobilise. Le mot « labor », il a eu dans l'histoire, probablement sociale, un sens que n'avait pas le travail. Hein, en tout cas, moi, je me fie un peu à ce que, pas Arnoux, que je n'ai pas encore lu, mais je vais me précipiter sur son ouvrage, bien sûr, même si je suis réticent, parce que moi, ça, je pense que c'est très important de voir comment les gens pensaient ce qu'ils étaient et ce qu'ils vivaient. Et je ne suis pas sûr que je me laisserais convaincre facilement que le laboureur du XIe siècle, il se pensait un homme créatif et libre, je ne sais pas. D'abord, qu'est-ce qu'on a comme trace ? Je ne sais pas exactement. Mais enfin, le livrage d'Arnoux va répondre à ça. Donc, je ne sais pas. Moi ce que je voyais, c'était plutôt qu'il y a des moments dans lesquels probablement les catégories qu'utilisent ceux qui travaillent et les catégories utilisées par ceux qui parlent de ceux qui travaillent se coïncident. Et il y a des moments dans lesquels il y a une sorte de congruence ou de... Et je pense que le XXe siècle, quand les gens disaient je propose mon travail, donc je recherche un emploi, les gens disent ça. Je cherche un emploi, donc je propose de travailler. Et donc ils disent bien, il y a une grosse différence entre le travail et l'emploi, puisque dans mon langage même, dans ma manière de penser ma démarche, le travail je l'offre et l'emploi je le recherche. Et ça, je pense que c'est important. Et les sociologues et les économistes et les juristes, je pense qu'ils ont parlé le même langage pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une discordance ? Je ne sais pas. Est-ce qu'au fond, la manière dont les gens parlent de leur quête, de leur aspiration a changé ? Peut-être. Je n'en suis pas absolument persuadé. Ou en tout cas, c'est peut-être pas majoritaire. Bon. Alors, la deuxième chose... C'est la sacralisation du salariat, on peut en parler longtemps, mais il me semble qu'il y a une grande rupture qui s'est passée au XIXe siècle, et c'est lorsqu'on a abandonné l'idée que l'aspiration de chacun, c'était de devenir propriétaire de son travail. Ça, c'est la grande rupture. Et ça se passe après 1848, puisque la révolution de 1848, elle se fait, il y a une partie qui se fait au nom de chacun doit devenir propriétaire de son travail. Et puis, ça, je pense que dans certaines constructions intellectuelles, pensées savantes, critiques, et dans la naissance du syndicalisme, il y a un oubli, une amnésie de ce mouvement-là. Donc l'acceptation que le travail, on le prête à autrui et qu'on n'en est pas propriétaire. On accepte cette aliénation, comme on disait, cette vente, cette location. Et ça se passe, à mon avis, plutôt entre 1850 et 1900, quelque chose comme ça. Alors je ne sais pas si, là encore, le relativisme historique fait que peut-être ce n'est pas la même périodicité exacte en Angleterre, en Allemagne, en France, mais... Si je me souviens de ce qu'écrivait magnifiquement Bénédicte Zimmermann, il me semble que c'était assez la coïncidence avec. Enfin, c'était contemporain à peu près, à quelques décennies près en Allemagne et en France en tout cas. Et puis dernière petite remarque sur l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, ce qui est quand même un mot absolument magnifique, hein, l'auto-entrepreneur. Ça, je dois dire que c'est un sénateur ou un député qui a inventé cette expression, comme si on pouvait être entrepreneur d'autre chose que de soi-même. Ouais. Donc il faut souligner, l'auto-entrepreneur, c'est une catégorie aujourd'hui, statistique, même, combien il y a d'auto-entrepreneurs. Il y a une crise du statut de l'auto-entrepreneur, en tout cas, hein, aujourd'hui. Il y a même, le 3 février, une circulaire demandant que soient sévèrement sanctionnés ceux qui ne déclarent pas, parmi les auto-entrepreneurs, leur chiffre d'affaires réel. Donc il y a visiblement une reprise en main de cela. Je pense quand même que, même si Patrick Fridençon a probablement raison en nous appelant à tenir compte de la diversité des formes d'activité, je pense quand même que dans les sociétés, on va dire, d'économie sociale de marché, je ne sais pas comment les appeler, il y a quand même une forme absolument dominante et qui reste dominante, même s'il y a des efforts depuis des décennies pour relancer des formes de création d'entreprise, d'entrepreneuriat. Il y a une logique du système même productif et de, à mon avis, qui rend très difficile l'épanouissement réel. On peut rêver de ça. L'épanouissement de ces formes d'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire d'entrepreneurs sans capital, quoi. Le problème de l'auto-entrepreneur, c'est qu'il n'a pas de capital. Il n'a pas de capital. Il a sa force de travail et il cherche simplement une pluralité de clients, et l'organisation de notre activité de production de biens et de services fait que cette activité est très rarement une réussite économique, en tout cas. Donc moi, personnellement, je suis assez sceptique sur ces relances régulières, parce que ça n'est que la 18e tentative depuis 1960 de relancer la création de micro-entreprises. Il y a un statut de la micro-entreprise, il y a un statut fiscal de la micro-entreprise, il y a un statut de l'auto-entrepreneuriat, mais auparavant déjà, il y a eu d'autres tentatives. Je crois que on peut avoir peut-être une confiance plus grande dans des formes de concentration du capital autour de scope, oui, mais dans l'auto-entrepreneuriat, à part les dessinateurs de bandes dessinées, voyez, qui sont des auto-entrepreneurs, en général, ils ne sont pas salariés, ils travaillent à domicile et ils envoient leurs dessins par voie électronique. Je parle à part ce travail-là ou de ce type de travail, on voit mal, si vous voulez, comment peut s'épanouir une forme d'activité de ce type, dans lesquelles on est très tributaire d'une pluralité de demandeurs et où on ne peut pas tenir longtemps sans avoir une stabilité d'une commande, pour dire les choses simplement.
Oui, moi je reviens sur l'affaire de la définition du travail, la catégorie anthropologique, etc. Moi, il me semble que c'est très difficile de s'entendre sur une définition du travail, ou même de dire qu'il y a une catégorie anthropologique, parce que certes, c'est une activité, mais une fois qu'on a dit que c'était une activité, on n'en a pas fini, parce que il faut spécifier une activité de quelle sorte, quelle est sa différence avec d'autres types d'activités. Alors on dit le bénévolat, ce qu'on fait à la maison, etc. Donc, et je pense que ce qu'a dit Antoine Lioncan sur les catégories, c'est très 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 important. Moi, un de mes maîtres en cette matière, c'est Vernant, et Vernant explique très bien dans des livres magnifiques sur les Grecs combien l'idée de penser un travail qui serait, comme ça l'est pour nous aujourd'hui, hein, de la création de nouveau, de la création de l'opposition à la nature, à une nature qui serait un objet en face de nous, et que l'on transformerait, et où il y aurait un ajout de valeur, combien c'est une idée qui est absolument incompréhensible chez les Grecs, par exemple, qui n'a rien à voir avec les Grecs. Donc je pense qu'il faut absolument se garder de lire les périodes antérieures avec nos propres catégories. C'est extrêmement difficile, évidemment. Mais, bon, par exemple, Marie-Noëlle Chameau a fait aussi de très beaux textes pour montrer que dans certaines sociétés pré-économiques, il n'y avait pas de terme de travail. Et donc, je me demande, moi, ce que j'avais proposé, hein, c'est l'idée que notre concept de travail, il est comme un millefeuille, c'est-à-dire constitué de couches de signification que les siècles ont ajoutées les uns après les autres. Et que nous, on reçoit ça en héritage. On a cette espèce de millefeuille en héritage, avec ce qu'a dit Patrick Fridençon, c'est-à-dire ce Moyen-Âge bouillonnant, hein, Michelet parle de ces laboratores qui en effet créent de la richesse, et il dit qu'on voit ça monter, que c'est magnifique de voir cela monter avec la croissance, en effet. Mais c'est vrai que le moment du XVIIIe siècle est extrêmement important, et que ce livre de Smith, il est très 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 important, parce que c'est en même temps la reconnaissance du travail abstrait. On dit facteur de production, bien sûr, il dit pas ça à l'époque, mais c'est extrêmement abstrait, c'est-à-dire que tout le chapitre 1, en effet, ne parle que du travail. Et quand on regarde, ça échappe complètement. On ne nous parle pas de l'activité concrète de travail, puisque tout au fond, le travail chez Smith, c'est du temps, en fait. Donc c'est des espèces de quantum de temps. Donc on a bien, me semble-t-il, une première comme ça, définition de travail abstrait qui est installée, sur quoi, au XIXe siècle, va venir s'installer quelque chose de radicalement nouveau, qui, par exemple, chez les philosophes, est porté par un Hegel, par un Marx, c'est-à-dire l'idée qu'avec le travail, je transforme le monde. Et ça, c'était quand même... C'est complètement nouveau. Je transforme le monde et je me transforme moi-même. Et je pense que notre idée du travail aujourd'hui, elle vient aussi largement de là. Et que ces deux choses-là n'ont quand même pas grand-chose à voir. Hein. Le travail facteur de production et le travail essence de l'homme, qui est mon activité. Hein. Marx dit que la vraie activité humaine, c'est le travail. Et qu'un homme n'est pas un homme si, en gros, il ne passe pas son temps à transformer le monde dans lequel il est. Et puis, à la fin du 19e siècle, il y a la société salariale qui s'installe. Mais ce que je trouve passionnant aussi, c'est pour en revenir à la question du salariat, qu'est-ce qui se passe quand même entre les deux? Marx dit le travail en soi est quelque chose de, est une valeur, mais en gros, c'est une valeur en soi. Ça ne sera vraiment une valeur que quand on aura aboli le salariat. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on ne l'abolit pas et qu'on continue à dire que le travail est une valeur sans l'avoir aboli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Habermas dira qu'on se trouve là dans une horrible contradiction, parce que du coup, on est ligoté dans une conception très économiciste du travail, dans laquelle les gens ne peuvent pas vraiment s'épanouir, en fait. Donc, je crois qu'on est coincé dans plusieurs significations du travail et que elles sont toutes là en même temps. Le travail, c'est à la fois un facteur de production, et donc tant mieux si on peut réduire le nombre de travailleurs et la dépense engagée pour eux. Le travail, c'est en même temps l'essence de l'homme, c'est-à-dire on a très envie que cette activité, elle nous permette complètement de nous réaliser, comme j'ai la citation de Marx tout à l'heure. Et puis c'est en effet le pivot de la société salariale, quoi. Et on a en effet à tenir tout ça ensemble. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, mais les différentes interventions m'y ont fait penser, c'est la question du partage du travail. Moi, j'ai écrit mon premier livre, que j'avais malheureusement intitulé, pardon Patrick, Le travail, une valeur en voie de disparition. J'avais écrit mon premier livre en réponse à un article de Supio. L'article s'appelait Le travail, liberté partagée. Et Supio disait, on ne peut pas partager le travail, parce que le travail, c'est une liberté, et donc ça ne peut pas se partager. Et moi, je pensais qu'il fallait partager le travail, précisément pour en donner à ceux qui n'en avaient pas. Et donc, cet article m'avait un peu révoltée, et j'avais écrit mon livre pour montrer que si, on pouvait bien partager le travail.
Alors, échange de balles, on peut partager l'emploi, ça oui, est-ce qu'on peut partager le travail? Voilà le fond du débat entre nous. Je reviens sur plusieurs questions qui ont été abordées. La charte d'Amiens, 1906, c'est un texte à la fois d'une extraordinaire beauté, et je le dis sincèrement, et d'une complexité extraordinaire, puisque c'est à l'origine une motion de congrès dans une CGT qui est extraordinairement divisée et où les syndicalistes qui vont obtenir la majorité font appel à un juriste qui est extérieur à la CGT tout en travaillant avec elle sur ses propres positions, qui est Maxime Leroy, qui a été, pensons-nous aujourd'hui, l'un des principaux auteurs réels de la charte d'Amiens. Et on a un texte qui arrive à mettre d'accord les réformistes et les révolutionnaires, les autogestionnaires et les étatistes. Donc c'est quand on fait quelque chose comme ça, c'est vraiment trop beau. Bon, alors je me place, j'essaye de répondre à la question qui m'est posée. Comment dirais-je ? Si on veut simplifier les débats de cette époque, on peut dire que les gens qui portent ce texte, ce sont les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, ce sont les ouvriers de la métallurgie pour l'essentiel. Alors, bâtiment et métallurgistes, ce sont ceux qui sont pour l'essentiel des ouvriers très qualifiés et qui ont l'habitude de migrer. Je dis migrer parce que le petit chef ne vous plaît pas, le patron ne vous plaît pas, eh bien, comme on dit, on donne son compte et on va ailleurs. Donc il y a l'idée que l'ouvrier ne se définit pas principalement par son contrat ou par la relation d'exploitation, de domination et d'aliénation, mais par sa capacité à être lui-même et à pouvoir dire non. Et d'une certaine manière, quand on parle d'abolition du salariat, on a, à mon sens, l'expression la plus forte de cette capacité d'une partie des salariés à pouvoir se déplacer d'un métier à un autre, d'une qualification à une autre et d'une entreprise à une autre. Il n'en reste pas moins qu'il y a une portée de représentation. Et cette portée de représentation, c'est une critique en règle des limites du contrat de travail, des limites en soi, des limites de la justice quand ce n'est pas la justice des prud'hommes, quand c'est la Cour de cassation à partir de 1866, et que la Cour de cassation, saisie à l'origine par les patrons en appel des prud'hommes, va donner des sentences nettement moins équilibrées que les sentences des prud'hommes. Et les sentences des prud'hommes étaient vécues comme étant, dans la période du XIXe siècle, une sorte de justice locale, un droit local à partir de valeurs communes et de valeurs rapprochées. On est à ce moment-là très loin de ce qu'on a pu voir à la télévision ces tout derniers jours, où on nous a présenté à la suite de dispositions qui remontent à 2 ou 3 ans, le fait que les prud'hommes ont un temps extraordinairement limité pour étudier leur cas et font maintenant des jugements à la chaîne. Mais voilà. Donc voilà pour la charte d'Amiens, c'est-à-dire il y a à la fois, à mon sens, un texte qui est très daté et un texte qui exprime des aspirations qui sont très fortes dans une fraction du salariat, pas seulement une fraction de certains métiers, mais ça peut être une fraction de certains âges de la vie, de certaines régions qui sont plus sensibles à ce type d'aspiration que d'autres, en fonction des traditions, en fonction de la répartition des activités. Et au fond, il manifeste, de mon point de vue, un pont à ce que je vais dire en réponse sur la question de l'anthropologie, c'est-à-dire le fait que le travail pour une partie des salariés est une activité de réalisation. Alors, je dis pour une partie des salariés parce que le texte de la charte d'Amiens, il n'est certainement pas le texte de ce qu'on appelle à l'époque les manœuvres, qu'on a appelé dans les années 50, 60, 70 les ouvriers spécialisés, lesquels voient dans le travail purement et simplement une rémunération, ce qui est un point qui a été fortement soulevé par et Jérôme Gauthier et Antoine Lioncamp, et qui sont simplement à la recherche de la rémunération qui permet de répondre soit aux besoins du célibataire ou de la célibataire, soit aux besoins de la famille. Donc, voilà pour Ce premier point. Deuxième point sur l'anthropologie. Oui, moi, je dirais, chacun voit midi à sa porte. Je suis pour partie un historien des techniques. Et pour moi, l'acte de travail, ça représente effectivement que ce soit un travail agricole comme chez Mathieu Arnoux, que ce soit une forme quelconque de travail industriel ou un travail aujourd'hui dans le secteur des services. Et le numéro du mouvement social dont j'ai parlé tout à l'heure y ajoute le travail militaire et le travail sexuel et toutes les formes possibles de travail informel et de travail domestique. Le travail, c'est une activité qui se traduit par un rapport non seulement aux personnes, mais un rapport aux objets, aux choses, à la nature. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on ne peut pas traiter le travail comme une catégorie uniquement abstraite. On doit toujours faire le rapport aux techniques. Et ce rapport est un rapport profond, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand les techniques heurtent et quand les techniques font mal. Troisième point, est-ce qu'on peut penser le passé uniquement avec les catégories du passé ? Moi, personnellement, ma réponse est non. Je suis là-dessus très ferme sur ce point. Quand j'étais étudiant en histoire, il y avait les professeurs les plus conservateurs de la Sorbonne qui nous expliquaient qu'on ne pouvait pas penser l'Ancien Régime autrement qu'avec les catégories de l'Ancien Régime. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a aucun texte, quand on n'a aucune catégorie ? On n'a à ce moment-là aucune catégorie, mais à ce moment-là, je dirais... que font les sciences sociales si c'est uniquement pour tendre un miroir aux catégories du passé ? Je veux dire, ce débat a l'air très abstrait, très étrange. En réalité, il est très présent dans la discussion. Moi, je dis, on est obligé de faire les deux. Et quand on fait les deux, on aboutit forcément à voir ce qu'on peut espérer comprendre du passé, qui est quelque chose d'extrêmement probabiliste. On peut le voir d'une manière autre que les contemporains ne l'ont vu. Je reviens sur un dernier point qui a été abordé. C'est Antoine Lioncamp m'a dit, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ce que peuvent penser les paysans dans leur communauté médiévale ? Comment est-ce qu'on peut se dire que... Ils pensent que les usages pour la répartition de la terre, pour le choix de telle ou telle culture, pour savoir ce qui va à l'église ou ce qui va au Seigneur, n'est pas quelque chose qui vient uniquement d'en haut. D'abord, moi, je dirais, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour savoir ce que pensent les gens ? Est-ce que c'est quand on a les 3000 entreprises de la DARES en France, travail important, travail essentiel, qu'on sait exactement tout ce qui se passe sur le travail en France. Je permets de dire que ce serait une vision extraordinairement optimiste des choses. Mais quand on regarde le Moyen-Âge, nous explique Mathieu Arnoux, on a des textes qui sont, je l'avais dit tout à l'heure, qui ne sont pas écrits par les paysans, qui sont écrits par les clercs, par les militaires, par les juristes. Mais si on regarde aujourd'hui les productions sur le travail, et je regardais même la charte d'Amiens, je vous ai expliqué qu'une grande partie n'était pas écrite par des ouvriers, elle était écrite par un fichu juriste. Donc, il y a le problème de savoir comment on arrive à penser, à percevoir ce que font et ce que pensent les acteurs individuels ou collectifs, c'est un des problèmes les plus délicats. Donc, au Moyen-Âge, on a ces textes. Mathieu Arnoux nous dit qu'on a aussi des traces archéologiques qui permettent de reconstituer un certain nombre de choses. Et dans la discussion qui a eu lieu à propos de son livre dans notre labo, Gérard Béor a dit aussi qu'on a des représentations dans les églises, dans les vitraux. Et ici, je voudrais m'arrêter sur un point et un seul. Je suis allé, comme probablement d'autres ici, au Brésil, et j'ai vu les églises baroques du Minas Gerais. Et nous étions accompagnés par une institutrice brésilienne issue de lignée d'esclaves noirs. Elle nous a fait voir que sur chacune de ces églises, l'auteur réel des sculptures s'est représenté. Et c'est un esclave. Et il s'est représenté comme l'esclave qui est celui qui a permis de faire en sorte que l'église ait sa beauté et son côté spectaculaire. Et il a réussi à montrer qu'il était là, en position certes subordonnée, mais qu'il arrivait à manifester sa vie.
Merci. Alors, juste avant de repasser peut-être la parole à la salle, juste deux petites réflexions en fait, qui rebondissent sur ce qui a été dit. D'abord, il a été beaucoup fait allusion à la charte d'Amiens, mais il y a un autre texte, là je parle sous le contrôle de l'historien, un autre texte programmatique de la même époque qui préconisait aussi l'abolition du salariat, c'est le programme du Parti radical. D'ailleurs, Robert Castel insiste dans son livre. Hein, pourquoi ? Parce que pour les radicaux aussi, l'abolition du salariat, c'était finalement quelque chose de très positif. Et l'auto-entrepreneur, entre guillemets, même si le terme évidemment n'apparaissait pas, mais l'auto-entrepreneur était vraiment l'avenir de l'homme. Hein, et la position de salarié comme position transitoire. Bon. Ça, je crois que c'est très important aussi parce que c'est quelque chose qui est très présent dans la pensée libérale encore et dans des pays comme le Royaume-Uni. Et qui marquent très fort leur politique de l'emploi, etc. Finalement, cet idéal du sublime, hein, auquel il a été fait allusion ici, hein, le fameux sublime, cet ouvrier très qualifié qui pouvait se permettre justement de se détacher d'une relation de subordination et de se vendre et de faire l'auto-entrepreneur, pour ainsi dire, je crois que c'est une vision encore très très marquante dans la pensée libérale et dans les politiques qui ont été mises en place au Royaume-Uni et une vision beaucoup plus globale, enfin, on pourra rentrer dans le détail, mais je rentre. Deuxième chose sur la vision anthropologique, en fait. Je disais, l'angle mort de l'économie, c'est de ne pas penser le travail, en fait. L'économie ne peut penser que le produit du travail, jamais le travail lui-même. Et encore, l'économie pense le produit du travail, mais à partir du moment où ce produit du travail lui-même est un produit du travail pour autrui. Et ça, Marx l'a très bien vu. Il a dit finalement, c'est l'aliénation. Il n'y a pas, on ne peut pas penser le travail sans le penser dans une aliénation. Alors, dans ce que disait Antoine Lyon-Caen, il disait, mais penser le travail justement comme distinct de la personne, c'est libérateur. Mais tout de suite, ce travail, si c'est un travail pour autrui, il est distinct de la personne qui le donne, mais il est pour autrui. Tout de suite, c'est l'aliénation. L'aliénation qui est là et l'aliénation du travail pour autrui. Or, vous parliez de la vision anthropologique. Il y a tout un courant d'anthropologie, je pense à des auteurs comme Marshall Salins ou comme Pierre Clastres, etc. Quelle vision anthropologique du travail il nous donne ? Il nous dit surtout qu'il y a des sociétés où il n'y a pas de travail. Donc, ce n'est pas tant une vision anthropologique du travail qu'une vision anthropologique du non-travail. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a des activités qui sont des activités qu'on pourrait qualifier de production. Hein, on cueille, éventuellement on peut cultiver, etc. Mais qu'on ne peut pas qualifier de travail parce que ce n'est pas du travail pour autrui et qui est pris dans le jeu du marché, de l'aliénation, etc. Et qui est pris dans la conscience de la rareté. Hein, c'est-à-dire l'économie, c'est la question des ressources rares. À partir du moment où il y a une prise de conscience de la rareté et de rentrer dans le cycle du travail pour autrui, pour essayer d'échapper à cette rareté, forcément, il y a de l'aliénation. Mais du coup, on ne peut plus penser en même temps que l'on parle de travail, on est condamné à ne plus pouvoir penser le travail lui-même, mais de raisonner simplement en produit du travail, en fait. Hein. Et donc on bascule de l'anthropologie qui pense finalement le non-travail à l'économie qui ne peut penser le travail que sous la forme du produit du travail, sous la forme d'animation. Voilà. Donc on peut peut-être prendre d'autres questions.
Bonsoir. J'avais une question pour Dominique Méda. Vous expliquez en fait le paradoxe du travail en France, le paradoxe français, à travers des enquêtes d'opinion, c'est-à-dire en fait la perception des salariés. Et je veux savoir dans quelle mesure cette perception elle est confrontée à des faits objectifs. En fait, autrement dit, dans quelle mesure la qualité des relations sociales est moins favorable en France que dans d'autres pays, ou dans quelle mesure l'articulation entre leur travail est plus difficile en France que dans d'autres pays. Ou est-ce que c'est que les Français sont, comme on dit souvent, plus protestataires, plus râleurs, etc.
Donc, Pierre Poitvin, du Parti de gauche. Donc, moi, je trouvais un peu bizarre que finalement, vous ne parliez pas de travail associatif, de capital culturel, enfin, toutes sortes de choses qui finalement, on ne trouve pas du tout en compte dans l'économie, qui sont notamment créées par tous ces gens qui font partie de la Sistana, notamment, il devait y en avoir ici. Et ouais, je trouvais ça un peu bizarre parce que, enfin, selon moi, il y a des gens qui parlent aujourd'hui du revenu de base. Je suppose que vous savez de quoi je parle. Une espèce de revenu inconditionnel où justement les gens seraient payés finalement à ne rien, enfin, pas à ne rien faire, mais à travailler, comment dire, selon leur création, selon leur bonne volonté finalement. Et enfin, je me demande un peu comment vous voyez l'apparition de telles idées et l'apparition notamment aussi de tout ce qui est le logiciel, les GNU, les licences libres, tout ce travail qui finalement se retrouve à être gratuit. Alors qu'on peut, enfin, on peut pas vraiment dire que c'est pas du travail, puisque, enfin, c'est quand même réutilisé par des grandes entreprises. Mais je sais pas, je me demandais comment vous voyez ça.
Bonjour, j'aurais aimé que vous redéveloppiez l'idée des fabricants de représentation. Quel poids ils ont actuellement? Vous avez parlé tout à l'heure de fabricants de représentation, politique, judiciaire, médias, éducation. Est-ce qu'actuellement il n'y a pas un poids un peu démesuré de ces fabricants de représentation? Qu'on retrouve même dans l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de l'île de la Tentation, où les médias avaient une représentation très précise du sujet. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire.
Bonsoir. En fait, moi, je souhaitais vous demander ce que vous pensiez du fait que le travail, on peut aussi le considérer comme une liberté. Je suis jeune diplômée et je suis à la recherche d'un emploi. Et en fait, j'ai été diplômée à Paris 1 dans l'économie quantitative. Je n'ai pas eu la chance de vous avoir en tant que professeur. Mais je veux dire, aujourd'hui, le travail, ça permet l'accès à beaucoup de choses. Et du coup, paradoxalement, parce qu'on a parlé de pas mal de paradoxes ce soir, le travail, ça veut dire torture, j'ai entendu aliénation, subordination, mais je pense qu'à un moment donné, on oublie le fait que le travail, c'est quand même une liberté, parce que ça permet d'avoir des loisirs, ça permet de construire, se construire sa vie. Alors peut-être que, étant justement jeune diplômée et au début de ma vie, c'est un mot que... qui me vient de suite. Et je pense que je ne suis vraiment pas la seule, en fait, en tant que jeune diplômée, à penser ça. Voilà.
Patrick Fredençon, on va commencer par là. Okay.
Je reviens d'abord sur la question du travail associatif. Travail associatif, deux estimations très rapides. Les États-Unis, pays... l'entreprise marchande par excellence, la proportion de la population active qui est dans le travail associatif est de l'ordre de 10 à 11%. Donc je tiens à le dire parce que c'est un point qu'on n'a pas souvent en tête. Même aux États-Unis, il y a une part importante sur de travail associatif. Deuxième point sur la question des représentations. Je vais répondre de manière générale et puis je vais me rapatrier sur les questions posées. Vous avez les acteurs, les femmes et les hommes qui sont dans une société sont avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des représentations qui sont héritées des époques précédentes et dont une partie sont transmises de manière volontaire par les activités d'enseignement, d'éducation et de formation. Et il y a d'autre part des représentations courantes qui sont développées par, je l'ai dit tout à l'heure, les religions, le droit, la politique et aussi les entreprises. Ces représentations ne sont pas homogènes. Ces représentations sont les lieux de bataille, ce sont les lieux de transformation. Il y a des moments où une représentation s'effondre et une autre va prendre le dessus, mais les anciennes représentations, et c'est la seule chose que peut dire l'historien à ce stade, ne disparaissent jamais. Elles sont toujours là. Elles vont circuler sous la forme d'aspirations minoritaires, sous la forme de chansons, sous la forme de photos, sous toutes les formes que vous voudrez, mais elles vont rester. Mais il y a une bataille dans les représentations à un moment donné. Troisième et dernier point. Oui, c'est vrai. Il y a eu, avec Internet, toute une définition, une vogue du gratuit. Et cette vogue du gratuit, elle est extraordinairement fréquente chez nous, dans le milieu scientifique, avec les théories de l'accès gratuit aux connaissances, etc., etc. Mais dans le même temps, il y a le mouvement le plus contradictoire qui soit, c'est-à-dire que la sphère marchande s'empare de tout ce qui est fait gratuitement et cherche à le transformer en quelque chose de payant. Donc, il y a eu effectivement une percée du gratuit, mais cette percée du gratuit, elle est immédiatement réintégrée et réappropriée par une partie du payant. Et deuxièmement, une partie du gratuit est fait avec de l'argent public, donc avec de l'argent qui vient d'autre chose, qui vient de la fiscalité. Voilà, une dernière remarque quand même qui est tout à l'heure par rapport à ce que disait tout à l'heure sur la comparaison avec d'autres pays, ce qui était dit tout à l'heure. Au XIXe siècle, on est passé en Angleterre comme ailleurs au régime du contrat de travail avec la loi Master and Servant. Eh bien, cette loi donc qui a promu le contrat de travail a été vécue par les ouvriers au XIXe siècle, d'après des recherches à paraître dans la revue d'Histoire moderne et contemporaine, sur comme un moment où la subordination a été renforcée et où les ouvriers ont été exposés à des châtiments corporels et à des peines de prison. Donc, encore une petite pierre pour dire que l'idée du progrès linéaire et continu serait pour moi quelque chose que un historien ne pourrait pas nécessairement admettre.
Je vais aller très vite sur la question sur les paradoxes français et les autres pays. C'est vrai qu'on reproche souvent à ce type d'enquête, je pense par exemple aux enquêtes que fait la DARES sur les conditions de travail, on leur reproche souvent de ne passer que par les salariés et donc d'être complètement soumise au filtre de l'humeur, en quelque sorte, de ces salariés. Mais de plus en plus, ces enquêtes essayent d'objectiver les choses et donc de se rapporter à des éléments plus objectifs quand même. Sur le travail et le gratuit, moi ce que je trouve passionnant, c'est le rapport entre... Enfin, ce que la comptabilité nationale reconnaît comme travail, en fait. Et tout le travail, entre guillemets, que les dispositifs comptables font pour dire ça, c'est du travail et ça, ça n'en est pas. Ou ça, c'est de la production et ça, ça n'en est pas. Et puis, sur la dernière question est extrêmement importante, hein, bien sûr que le travail, c'est une liberté. Bourdieu parle de la double face du travail, hein, avec les deux faces indissolublement liées. Et je crois que, enfin, des gens ont dit qu'on était aujourd'hui dans des sociétés fondée sur le travail. Ça veut dire qu'en effet, ceux qui n'en ont pas, énormément de choses leur font défaut. Et c'est aussi peut-être quand même un problème de notre société, que le travail occupe une telle place et qu'il soit si mal partagé.
Et Antoine Lioncan, pour conclure, parce qu'on doit, je crois qu'on doit quitter la salle, on a dépassé déjà l'heure.
Oui, je conclue pas, mais je pense que le débat, il montre que, en effet, il y a une sorte de lutte sur le sens de l'activité des uns et des autres. Donc, il n'y a pas de stabilité absolue des manières de valoriser ou dévaloriser une activité. D'où la question qui était posée dans les années 60, elle est encore actuelle, elle a été transformée en même temps. Quelle était-elle ? Je rappelle ce que c'était. La femme au foyer travaille-t-elle ? Moi, je me souviens de lectures comme ça. Et alors, il y avait des enjeux qui étaient la fiscalité, des enjeux qui étaient... Non, mais c'est vrai, il ne faut pas oublier que c'est... Souvent, les questions, elles arrivent comme ça. Elles n'arrivent pas simplement parce que nous sommes dans une très jolie salle, dans un débat très intéressant. Elles arrivent parce que certaines personnes sont mobilisées chez elles, qu'elles ne sont pas considérées, et que pourtant, un petit groupe commence à dire « Nous n'avons pas de raison d'être traités comme ne travaillant pas ». Eh bien, la réponse de l'administration fiscale à cette époque, c'était comme ça ne fait l'objet d'aucune évaluation en termes de rémunération, ça n'est pas du travail. Il ne faut pas oublier ça. C'était il y a 40 ou 50 ans. Donc, ce que vous appelez le travail associatif ou enfin, l'activité ou le travail ou le labeur ou associatif, c'est quelque chose qui n'a pas un statut stable. Peut-être, en effet, ce combat vaut-il la peine d'être mené, de dire il faut obliger à repenser les catégories à travers lesquelles on pense le décompte, le comptage des gens, à travers lesquelles on pense la distribution ou la redistribution fiscale, etc. etc. Donc je crois que la diversité, ou en tout cas l'instabilité relative des catégories et des normes qui servent à qualifier une situation, cette instabilité, c'est ce qui ressort le plus clairement de ces débats. Ça n'empêche qu'il y a une part, c'est là-dessus que je dirais, dans le travail, je pense que dans notre histoire sociale et culturelle, il y a cette idée profonde qu'à travers cette activité, on accède à quelque chose qui nous transforme. Bon, et c'est ça la liberté, ne pas être le même le lendemain que la veille.
Merci beaucoup. Merci aux intervenants, aux organisateurs.